Je vais reprendre le
texte.
Alors, nous étions donc arrivés à la troisième ligne avant la fin de la première page. Prenez la dernière ligne. Altikansu lefanai be'arvudia. Ne vous présentez pas devant moi en mélange. Et là, Ticanes, que l'Ouma avait Ouma avait son frère. Mais que chaque nation et ses, littéralement ses scribes, et nous avons vu que ça signifie ses généalogistes. Vous vous rappelez de cela? Se présente devant moi. Le verset qui est cité à l'appui, première ligne de la deuxième page, c'est le verset qui désigne les nations sous leur nom de Léoumim. Léoumim, okay. Et vous vous rappelez que ce terme nous avait beaucoup occupé dans les deux premiers cours. Vechesed Léoumim Khatat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de tzedaka. Alors la chesed, c'est un khatat. Je ne reviens pas sur le détail. Okay. Et en rattachant cette fois avec notre niveau du sujet, le chesed, la vertu chez les peuples, n'a pas de fondement, elle est appelée faute dans le verset, parce qu'ils n'ont pas de Torah. Étant donné qu'ils ne sont pas soumis à la souveraineté de la loi morale, les vertus n'ont plus de fondement. Et à ce propos, on établit que Léom est employé à propos d'Ésaü. Pour dire la nation d'Ésaü, Esav, c'est le mot de Léom. Quel est le verset? Où le homme, il est homme, il est matz. Et je crois que c'est là à peu près que nous étions arrivés dans les références sur la Torah. Je vous donnais de nouveau la référence de ce verset. Quelle est la transition qui nous fait passer de l'interpellation de l'humanité en tant que nation à ce profil particulier d'une nation qui s'est prétendue en place d'Israël, l'universel humain? C'est la nation d'Ésaü, c'est-à-dire en fin de compte la civilisation romaine. Et on apprend du mot de Léom qui est employé dans le verset d'Isaïe et du mot de Léom tel qu'il est éclairé dans le verset de la Genèse que je vais vous donner. Alors, nous allons prendre dans Bereshit, chapitre 25. Voilà. C'est le verset 23. Le verset 23 du chapitre 25. Shnei goyim bebitnech, ou shnei leumim mime'aïr yiparedu, ou l'om mile'om yemat. C'est la prophétie qui est donnée à Rivka. Lorsqu'elle a deux juments en son sein, elle dit deux nations sont en ton sein, et deux peuples se sépareront de tes entrailles, et un peuple triomphera de l'autre. Et là, je vous avais cité donc la Gemara qui dit que Rome et Israël ne peuvent pas exister ensemble. Si Israël existe, Rome est détruite. Si Rome existe, Israël est détruite. Alors nous sommes dans une période de transition où Israël a fini d'être détruit et où Rome a fini d'être construit. Enfin, vous comprenez qu'est-ce qu'il y a derrière les termes Rome, Israël. Ce n'est pas seulement les villes et les capitales. Enfin, c'est très impressionnant de voir Jérusalem reconstruite, se reconstruire. Et il y a quelques contemporains qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et la dernière intervention du Conseil de l'Europe, c'est de demander que les juifs soviétiques n'aillent pas dans les territoires, comme ils disent, et à Jérusalem-Est. Vous avez bien entendu ça? De quoi je me mêle? Bon. Et chaque fois que je me balade autour de Jérusalem, je vois tous ces quartiers nouveaux qui sont en train de se construire. Ça sort de terrain, je me demande comment. Alors que très sérieusement, Rome se demande comment faire que ça n'existe pas. C'est assez impressionnant. Si vous allez à Jérusalem, vous voyez tous ces quartiers qui sortent de terre. Bon, c'est évidemment aussi pour les Juifs soviétiques. Mais il y aura une place pour les Français aussi. Non. Bien. Bon, alors là, on va quand même essayer de... d'étudier une partie nouvelle du texte. Vous verrez, dans la deuxième page, la prétention de Rome, puis de la Perse, d'avoir participé à ce dont parle la Torah, c'est-à-dire d'avoir fait l'histoire de l'humanité, et la réponse de Dieu, ça nous avons étudié, ça me revient à la mémoire. Alors on avance. Vous allez prendre en bas. Une minute. Voilà. Je vais prendre à peu près ici. Omrim lefanav ribono shel olam. Si vous voulez compter la ligne. Vous y êtes ? Sur la marge blanche là, à droite, vous avez Dvarim Lamed Gimel, c'est la ligne plus haut. Voilà. Voilà ce qui se passe à ce moment du texte. En fin de compte, Dieu répond tant à Rome pour elle-même qu'à la Perse pour elle-même. Et ce qui s'est passé avant nous a fait comprendre que derrière il y a Ésaü et Ishmaël, c'est-à-dire les deux branches de l'identité issue d'Abraham réclamant l'identité Israël. Pas de la même manière, Ishmaël et Ésaü, mais ça nous avons déjà assez analysé. C'est clair jusque-là. Donc. Et je répète encore, au séminaire précédent, nous avons vu que la Gemara avait annoncé ce qui s'est passé ces dernières années, le conflit entre l'islam, Ishmaël, à travers la Perse, et Ésaü, la chrétienté, à travers Rome. Or, c'est ce qui se passe actuellement dans la scène historique. Alors là, lorsque Dieu leur répond, vous n'avez pas pratiqué la Torah, alors ils disent, oui, mais tu ne l'as pas proposé, imposé. Alors, on embraye là. Omrim lefanav, ils disent devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, Klum natatalanu, velokim lenura. Est-ce que, en rien, en quoi que ce soit, tu nous l'as donné, on ne l'aurait pas accepté? L'aurais-tu donné qu'on l'aurait refusé? Ou mimatil les memarachi? Et la Gemara dit, mais comment ils peuvent dire ainsi? Réactive, n'est-il pas écrit? Ce verset que je vous ai signalé dans Deutéronome 33, on le lit là dans la Gemara, chez Messinaïba, Dieu vient du Sinaï, portant la Torah. Vezalach miseir l'amour, mais il a resplendi sur Seir. C'est à ce moment-là qu'il leur a proposé et qu'ils ont refusé. C'est à travers ce verset qu'on l'apprend. Ça veut dire, venant au Sinaï donner la Torah à Israël, Dieu simultanément l'a proposé à qui? Eh bien, aux autres branches de la famille d'Abraham, qui sont encore une fois ici, relais entre Israël et les nations pour les problèmes dont on s'occupe, c'est-à-dire la relation entre Israël et l'humanité. Je vous dis, parenthèse, j'avais dit une fois, à un de ces séminaires, mais il y a assez longtemps peut-être, que jusqu'à notre temps, le temps de l'État d'Israël, il n'y a jamais eu de relation directe entre Israël et les nations. Ça a toujours passé à travers l'église ou la mosquée. Plus exactement, les ghettos des cités de l'église ou les ghettos des cités de la mosquée. Partout ailleurs, la rencontre entre les juifs et les goïms a eu pour résultat que les juifs disparaissaient chez les goïms. D'une certaine manière, assez paradoxale, mais je voudrais mettre en évidence, l'église et la mosquée ont été un moyen de possibilité pour les juifs de se relier aux nations. Là où il y avait des églises et des mosquées, les juifs se perpétuaient, massacrés, enfin persécutés, mais se perpétuaient. Chez les autres, ils se fondaient, ils disparaissaient. Je crois que l'exemple le plus connu pour nous, c'est ce qu'est devenue la présence juive en Extrême-Orient. Elle a disparu. Elle tenait pas le coup, je ne sais pas comment dire. C'était des situations tellement assimilantes de l'identité juive, l'identité juive disparaissait. L'église et la mosquée faisant rivalité obligent les juifs à exister. Bon, c'est très paradoxal ce que vous dites là dans la forme, mais l'idée est claire quand même. Qu'est-ce qu'il disait?
Que le corps d'Ésaü était bien fait pour recevoir l'âme d'Israël.
Je ne crois pas qu'il ait jamais dit ça comme ça. Vous l'avez entendu comme ça?
Oui.
Non, Gikatilia disait qu'il préfère encore l'exil chez Ésaü que chez Ishmaël. Oui. En son temps, c'était le cas. Et puis, il y a un autre verset dans Habakkuk, attendez, je prenne ma loupe. Oui, dans Habakkuk, chapitre 3, Elokam et Teman Yavo. Dieu viendra de Teman. Donc il est passé par là. Et qu'est-ce qu'il faisait à Teman? Eh bien, il leur proposait la Torah et puis il n'avait pas de réponse. Vous voyez, le Talmud ici utilise tous les versets où il y a l'allusion à ce que Dieu s'est révélé chez les Goïm. Alors c'est ce thème que il leur a proposé la Torah, ils l'ont pas accepté. Maïbaé Bessehir, Maïbaé Beparan, qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire là-bas, à Seir et à Paran? Amar Rabbi Yochanan enseigne, tu es sur le texte, mais la messe, là, nous enseigne, chez Echzira, Kadosh Baruch Hu, Al-Kol Umma Velashon, que Dieu a proposé la Torah à tout peuple et langue, Velo Kibloura, et qu'ils ne l'ont pas accepté. Ad Sheba et Tsel Israël, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés auprès d'Israël, Vekibloura, et eux l'ont accepté. Et là, Aché Amré. En réalité, donc, il faut modifier l'argument précédent. L'argument précédent, c'était dans la bouche des nations, mais nous l'aurais-tu proposé qu'on l'aurait refusé? Ça, ils peuvent pas dire. Puisqu'il leur a proposé, ils ont refusé. Donc, c'est qu'il voulait dire autre chose. Quoi? Et là, Aché Amré. Voici ce qu'il voulait dire. Cloum qui bal nouha velo qui im nouha. Mais l'aurions-nous accepté et pas réalisé? Est-ce que c'est clair la différence? Je reprends. Cloum qui bal nouha velo qui im nouha. Il va dire, si nous l'avions accepté, nous l'aurions réalisé. Et pourquoi nous n'avons pas réalisé? C'est parce que nous n'avons pas reçu, pas accepté. Et pourquoi nous n'avons pas accepté? Parce que nous ne l'avons pas imposé. Voilà, c'est clair, oui. C'est le point du raisonnement. Alors en avant. Et la Kachomri Nefana, prenez la ligne suivante. Ribono Shelolam, maître du monde, Kloum Kafit, Alenu Arkehit, est-ce que tu nous as renversé sur nous la montagne, comme tu as fait pour Israël? Velo Kibinoa, et nous ne l'aurions pas accepté. Alors oui, là ici, les maîtres du Talmud, ce sont les porte-paroles, les avocats du dossier des nations, avec une finesse extraordinaire, hein. Kemosh Asitali Israël, est-ce que tu nous as renversé la montagne sur nous comme tu as fait pour Israël? Dirti, d'après ce qu'il est écrit dans le verset de l'Exode, chapitre 19, Vaïtiatsevou Betartitahar, il s'agit d'Israël, ils se sont rassemblés sous la montagne, alors que le Fès voulait dire au pied de la montagne. C'est clair? Vehama Rabbi Dimi Bachama, et Rabbi Dimi Bachama enseignait sur ce verset, mais la Mède, ça nous enseigne, chez Kafa, Kadjoukhoa, qui dit à l'Israël, ça nous enseigne que Dieu a renversé la montagne sur Israël comme un couvercle de marmite. Okay. Et ça, vous l'avez étudié autre part. Hein, parce que c'est une... je résume l'idée essentielle. C'est il y a contrainte de l'évidence. Devant l'évidence absolue de la révélation, on n'est pas libre. Donc c'est comme si on était obligé. Est-ce que c'est clair? Dieu nous a placés dans des conditions de révélation telles qu'on ne pouvait pas dire non. Est-ce que c'est clair? Et oui, c'est le mérite de cette acceptation, c'était d'aller là-bas, à ce rendez-vous, on savait qu'on perdrait la liberté. Mais c'est librement qu'on est allé sous cette roupa. Mais dès qu'on était sous cette roupa, on savait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que c'est clair? Le mérite, on l'a acquis avant. Les 49 étapes de la sortie d'Égypte à Matan Torah. De Pessah à Shavuot, il y a 49 jours, et le 50e est donné en surcroît. C'est ces 49 étapes qui nous ont fait acquérir le mérite du 50e degré. Dans le 50e degré, personne n'est libre. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ou le Maharal donne, pardon?
C'est le 50e jour qu'on a été imposé?
Bien sûr. Je vous avais donné une fois une image qu'on avait reçue de. Plus qu'une image de M. Gordon, ce qu'on a évoqué, une image de la pyramide. La pyramide, la pierre d'en haut, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la pierre d'en haut descendra d'en haut. On construit, et si on arrive au 49e degré, le 50e descend d'en haut. Il est donné en salaire des 49. Alors on peut relier les deux sujets comme ça. Est-ce que c'est clair? Et alors, on compte le Homer 49 jours, le 50e on ne compte pas, alors que la Torah dit vous compterez 50 jours. Vous avez remarqué ça? Et la Torah dit deux choses. Elle dit, vous compterez 50 jours, 7 semaines. 7 semaines, ça fait 49. Et le 50e jour, nous est donné en surcroît. Je vous donnerai plus le détail du Shranavour. Si on a oublié de compter un jour, on continue à compter, mais sans dire de bracha. Vous savez cela. On commencera l'année prochaine. Et alors, vous connaissez cette coutume de le premier repas de Shavuot au matin, on mange un repas halavi. Ici, on dit lacté, mais enfin, c'est le... Bon. Et alors, je me souviens, quand j'étais enfant, une des gâteries de ce repas halavi, c'était le fameux gâteau juif au fromage de Shavuot, mais il n'y avait droit que celui qui avait compté les 49. On en prenait en cachette, mais... Et alors, l'idée est très claire. C'est-à-dire, il y a une ascension à faire, et puis chaque degré compte, et alors si on l'a mal faite, on recommencera l'année d'après. Mais elle n'aboutit que si elle est faite dans toutes les étapes qu'il faut faire. Donc, et alors, c'est ce que je voulais donc indiquer, effectivement, au Sinaï, il n'y a pas eu de liberté de choix. Mais j'ajoute encore, l'expérience montre qu'il ne faut pas oublier ce que je vais ajouter. Ça ne veut pas dire qu'il y a, gratuité de cette prédestination que Dieu aurait choisie, pêche à la ligne, ce peuple et pas un autre, sans aucune raison. Pas du tout. C'est le peuple qui est allé au rendez-vous. Et ce mérite-là, il a acquis librement dans ces 49 étapes, en sachant très bien ce qu'il attendait sous la choupa. Est-ce que c'est clair? Le Maharal donne comme image, une image très profonde, on ne marie que des fiancés. C'est clair? Le mariage, ça c'est le couvercle de la marmite, okay. mais qui va au contrat de mariage? Les fiancés. Et c'est librement qu'ils se sont fiancés. D'où la nécessité des fiançailles d'ailleurs. Les fiançailles, c'est une cérémonie extraordinaire de ferveur. Ah, c'est le mariage libre, enfin dans un autre sens. Vous avez compris, c'est pas l'union libre, enfin, c'est clair. Et il y a une ferveur de la rencontre des fiançailles qui est autre que la ferveur de la rencontre du mariage. La ferveur de la rencontre du mariage, c'est l'anneau avec lequel on va faire la chaîne, les chaînes. Mais et c'est la joie du mariage. Mais encore une fois, c'est cette joie empreinte de cette atmosphère, disons, de contrainte. Le contrat, ça va être scellé. Okay. Mais à qui on impose ce contrat? À ceux qui s'étaient choisis librement. Est-ce que c'est clair? Bon, alors ça n'a aucun sens de dire que Israël ne peut pas faire autrement, et puis injustice, et Dieu a décidé, et sans raison, pas du tout. La Torah nous a raconté toute la préface au Sinaï, où seul parmi l'humanité, Israël est arrivé au rendez-vous du Sinaï. Et c'est cet Israël-là qui, depuis le Sinaï, ne peut plus faire autrement. Voilà, est-ce que c'est plus clair là? Donc, avec toute argumentation qui viendrait d'une prétention à l'universel authentique de la part des nations, fût-ce ces deux rivalités, Isaïe et Ishmaël, sont bloquées par cet enseignement de la loi, qui est d'une lucidité extraordinaire. Je veux dire que, en fin de compte, à partir du moment où il y a une adresse, c'est irréversible. La révélation, c'est Israël du Sinaï, et que tout celui qui a faim vient et mange. C'est clair ce que je dis là. Mais on n'invente pas une autre adresse, et là on ne peut pas. Pendant 2000 ans, Rome a cru qu'elle était Jérusalem, jusqu'à ce que Rabbi Astérix leur a dit vous êtes fous, les Romains, les Jérusalem sont en Judée. Alors là, les musulmans disent, la Judée, jamais de la vie. Ne laissez pas les Juifs soviétiques aller en Judée. Bon, donc, l'humanité. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais me rappeler un midrash que j'avais inventé une fois à propos de l'expression « à l'image de Dieu ». Et je vous rappelle que c'est interdit d'inventer des midrash. C'est que quand Dieu a créé le premier homme, eh bien, il s'est adressé à lui au commencement de l'histoire en lui disant « Si tu es sage, tu auras une image à l'image de Dieu. » Et alors, l'histoire de l'humanité a commencé. Rendez-vous au Sinaï. Et au Sinaï, Dieu dit à Israël, qui est le rendez-vous de l'humanité au Sinaï, « Tu seras sage et tu n'auras pas l'image. » D'ailleurs, tout notre sujet est de nouveau là. Et puis, rendez-vous à Jérusalem. Et à Jérusalem n'arrive que ce qui arrive. De la même manière qu'au Sinaï n'est arrivé que ce... Mais vous voyez, la finalité, c'est clair. Et rendez-vous à Jérusalem, c'est un verset que vous connaissez. C'est Yerechou Mechaïl El Chaïl, Yerae El Elokim, Betzion, pas ailleurs. Je n'ai même pas besoin de traduire le verset. Vous lisez tout le vendredi soir ce verset. Ils iront de combat en combat jusqu'à ce que Dieu se révèle à Sion, pas au Sinaï. Vous savez, il y a quelque temps, il y a eu un Yom HaTorah en France. C'était un Yom HaSinaï. Et alors, personne n'a parlé de Sion. Vous avez remarqué ça? Parce que c'est ou l'un ou l'autre, semble-t-il. C'est énorme. Et la dernière chose assez énorme que j'ai entendue, c'est que vous avez eu il n'y a pas longtemps une journée de collecte pour les Juifs de Russie, mais que le grand rabbin de France n'y participait pas. Parce que ce jour-là, il était en Tahanit Dibourg. Vous savez que c'est un Tahanit Dibourg? Bon, ça paraît un peu bizarre, tout ça. J'ai rien dit, hein. Bon, on enchaîne. C'était pas pour ça que j'avais demandé qu'on n'enregistre pas, d'ailleurs. Puisque vous avez un enregistre à Sion. Bien. Alors, où sommes-nous arrivés, donc? Voilà. L'enseignement de Rab Divi bar Chama, Melamed, Kafa, Kadoshbora, Kigita, l'Israël, ça nous enseigne que Dieu a renversé la montagne sur Israël et leur a dit, Imaten Mekabli Metatora Moutab, si vous acceptez la Torah, c'est bien, Vimlab, Shamte, Vouratrem, sinon là sera votre tombe. Ça veut dire, à partir d'un certain moment, c'est la condition sine qua non de notre être, de notre existence. Ça veut dire que maintenant que les jeux sont faits, si j'ose dire, la Torah, c'est votre existence. Et si vous ne l'acceptez pas, vous disparaissez. Vous n'avez plus aucune raison d'être. Est-ce que c'est clair? Et c'est comme ça que ça se passe, à travers l'histoire. Ceux qui se détachent de la Torah disparaissent. Mais encore une fois, la Torah d'Israël, pas la Torah de Trifouille les oies, fût cachère. Donc, Miyaz Omer Laem Akadosh Baruch Hu. Alors, quand les nations du monde plaident ainsi, en disant, eh ben, tu ne nous as pas imposé, Dieu répond, Arishonot, Yashmeon, ou Shneemar, c'est sur la verset d'Isaïe, il nous fera entendre les premières. Les premières, c'est quoi? Les premières paroles de Torah, c'est quoi? Shvar mitzvot, shekibaltem, echan kiamtem. Voilà le dialogue entre Dieu et les nations à la fin des temps. C'est pas sur la Torah, c'est sur les sept commandement de Noé. C'est-à-dire, Dieu leur dit, mais je ne pense pas à la Torah d'Israël, celle-là, elle est imposée qu'à Israël, ça ne vous concerne pas, mais ce que vous n'avez pas réalisé, c'est les sept commandements de la loi de Noé que vous avez reçus et pas réalisés. Et c'est clair jusque-là? Voilà, la transition du raisonnement. Alors, on continue. Et d'où savons-nous qu'ils ne l'ont pas réalisé, les sept commandements de Noé? Et je vous demande de vous référer d'ailleurs à ce qui s'est dit dans les séances du soir, où beaucoup d'intervenants parlaient comme si ça allait de soi qu'évidemment les goyim pratiquent les sept commandements. Ils ne pratiquent pas les sept commandements de Noé. C'est ça le texte. En particulier, je vous avais fait signer une fois, mais je le fais maintenant, que à la rigueur, on pourra argumenter sur la possibilité a priori qu'un musulman soit ben noir. Mais pour un chrétien, c'est plein de problèmes. Il y a le problème de l'idolâtrie, il y a le problème du sang. Et alors, nous sommes en train d'étudier en petit groupe, c'est toutes les références là-dessus. Les rabbins ashkenazes ont tendance à atténuer, c'est-à-dire à sauver les chrétiens, si j'ose dire. À dire, bon, mais leur idolâtrie, c'est pas tellement de l'idolâtrie, leur boudin, c'est pas tellement du sang. Alors que les rabbins sfarades sont impitoyables. Bon, mais tout ça, c'est en cours d'étude, alors je vous en parlerai quand on arrivera au bout. Donc, je répète simplement la formule. Qu'un païen devienne ben noir, c'est vraisemblable. Ça peut se faire. C'est une conversion à la loi de Noé. Mais authentifier un musulman et un chrétien comme membres de la loi de l'Alliance de Noé, c'est plein de problèmes. Les musulmans à cause des misos de la morale et les chrétiens à cause des misos de la religion. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais est-ce que c'est clair, hein? Mais, encore une fois, tout l'enseignement qu'on verra là-dessus, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus plausible, beaucoup plus vraisemblable pour un musulman que ça puisse s'arranger. Un chrétien, c'est pas si simple que ça. La preuve, aimait Palière. Vous avez compris ? Aimait Palière ? Oui, il est resté sur la porte Palière. Mais il n'en reste pas moins que c'était un très grand homme, et comme je l'ai dit, et je le pense, un être d'exception. Mais il est le témoignage que la question un noirisme est-il possible au monde chrétien, c'est pas simple. Il faut qu'il y ait un reniement du christianisme. Alors si déjà, pourquoi pas être juif? Est-ce que vous comprenez la question que... Sauf pour les cas où il y a empêchement. C'est ces cas-là qu'on étudie d'ailleurs. Je dirais, permettez cette formule, qu'à la limite, il faudrait mieux un bon noachide qu'un mauvais juif. Alors jusqu'à présent, on était habitué à dire, il vaut mieux un bon chrétien qu'un mauvais. Un bon chrétien, c'est quoi? Un bon chrétien, c'est un juif. Les mots ayant leur sens originel. C'est-à-dire, Esaü Kacher, c'est quoi? C'est Jacob. Ils étaient jumeaux, n'est-ce pas? Vous avez oublié.
À condition qu'ils se dépouillent de Rome.
Ça, à condition qu'ils se cachérisent. C'est ça notre problème, vous l'avez compris. Condition qu'ils se cachérisent, mais c'est difficile à cachériser, il faut passer par l'eau et le sel. Bon, ceci dit, c'est la typologie générale. Tous les cas particuliers sont des cas particuliers. C'est ça qu'il faut comprendre. Et de nouveau, on tombe dans la loi juive. La loi juive n'est pas légaliste. Chaque cas est un cas particulier. Vous voyez à quel point nous ne sommes pas sadducéens. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et vous, Metunim Badin, c'est au début du Pirkei Avot. Chaque fois qu'on vous porte une question, réétudiez-la. Ne dites pas je connais la réponse, j'ai déjà eu ce cas. Ça, c'est jamais le même cas. Même si c'est le même cas. Parce que très souvent, c'est le même cas. Bon, vous avez compris. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous vouliez dire, non? Qu'est-ce que vous vouliez dire quand je vous ai coupé la parole?
Est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu entre Ben Amozeg et Aimé Palière? Parce que qu'est-ce qui a réinventé la notion du judaïsme, de noachisme? C'est Ben Amozeg.
Oui.
Il a cru que c'était la vocation de Palière, et Palière n'a été que juif toute sa vie. Enfin,
on a désiré lui. Il n'a pas été, il a désiré. D'autant plus que c'est pas pour rien, mais d'ailleurs ça c'est l'humour du bon Dieu, c'est pas pour rien que cette... explosion de vérité de la Torah s'est faite à Copernic de ce temps-là et par ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un titre de, je ne vais pas dire d'honneur pour l'histoire du judaïsme libéral en France, et d'ailleurs pourquoi c'est moi qui ai décidé que ce soit Colette Kessler qui présente Aimé Palière. Et ce n'est pas des orthodoxes que c'est sorti cette histoire. C'est sorti des libéraux. Je dois vous dire, l'enseignement d'Aimé Palière a été plus fécond chez les orthodoxes que chez les libéraux, mais c'est une autre histoire. Et comme quoi, ça va, un juif est juif, même orthodoxe, mais croyez-vous. je voulais ajouter autre chose. Non, le malentendu est entre Ben Amozeg et nous, parce que Ben Amozeg a cru qu'on lisait Ben Amozeg alors qu'on lisait Aimé Palière. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Parce que j'ai suffisamment dit très très gentiment, et d'ailleurs le président de séance a demandé à Michel Presse de ne pas insister si vous avez marqué à cause de ça, c'est que l'Israël et l'humanité que nous avons entre les mains ne devaient pas signer Ben Amozeg, mais Aimé Palière. Je vous ai d'ailleurs fait photocopier quelques échantillons, c'est la raison pour laquelle le rabbin Zini était là. C'est-à-dire on est sur le bord d'une réhabilitation de Ben Amozeg, ça prendra du temps mais ça fera du bruit. Et ceci dit, Aimé Palière, c'est un grand homme. Ça veut dire, en aucun cas, il faut lui en vouloir de ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Et peut-être que la Providence voulait que ça commence comme ça, j'en sais rien. Mais ça n'y faut qu'on entre les mains. Sur le problème que je viens de poser, est-ce qu'un chrétien peut être noachide? Alors, ou à quelles conditions, plus exactement? Alors, je l'ai indiqué, c'était l'espérance et l'illusion de Ben Amozeg en son temps. Et Dubchani a absolument eu raison de dire, la question se repose maintenant, après le nazisme, après le Carmel Auschwitz et après l'État d'Israël.